situation sécuritaire au Kivu, les troupes du M23 ont débuté ce vendredi leur retrait progressif des lignes de front autour des Sake, une trentaine de kilomètres à l'est de Goma. Assemblée nationale, la plénière de mercredi dernier, consacrée à l'exposé du Premier ministre Matata Ponyo sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, a été suspendue dans la confusion. Tels sont les thèmes que vous propose Tribune de la Presse de ce soir. Ou à confrères journalistes participent à ce débat, il s'agit de Giscard Koussema, il est directeur général de la radio-télévision Canal Futur. Bonsoir Giscard Koussema.
Bonsoir Guy, bonsoir à tous.
Harold Bellarmin Badibanga, secrétaire de rédaction à la RTGA et mettant depuis Kinshasa. Bonsoir Harold Bellarmin Badibanga.
Bonsoir confrère.
Et Trésor Makunya Muindo, correspondant de Sitia Grand Lac au sud Kivu. Bonsoir Trésor Makunya Muindo.
Bonsoir Guy, bonsoir Giscard, bonsoir Harold.
La situation sécuritaire au Nord Kivu domine la une de l'actualité à travers les pays. Écoutons cette revue de presse que nous propose Kéline Kouté pour savoir comment la presse a traité cette question.
Les négociations pour le retrait effectif des rebelles du M23 de la ville de Goma qui devraient avoir lieu aujourd'hui font la une de la presse locale. Le phare, prolongation à Goma, le M23 joue avec les nerfs des Congolais. Le M23 manifestement décidé à jouer avec les nerfs des Congolais prétend qu'il n'est pas possible d'évacuer de Goma en une journée. Hommes et matériels venus de front de Kibumba, Sake, Kiwanja, Rutshuru, Bunagana et autres localités sous son contrôle. L'avenir pour sa part titre, faisant semblant de quitter Goma, le M23 en tenue de la police nationale. Pour ce quotidien quinois, si l'on y prend garde, ce temps de cohabitation consistera en un véritable réarmement des vents dégénérés en leur faveur avec la possibilité de lancer un nouvel assaut à tout moment afin de semer plus que hier terreur et désolation au cœur du territoire national. La presse écrite donne aussi une large couverture à la présentation du Premier ministre Matata Ponyo devant l'Assemblée nationale. Le potentiel Assemblée nationale, l'audition de Matata Ponyo se termine dans la confusion. Ce rendez-vous tant attendu par la représentation nationale et l'opinion a été gâché par une vive incompréhension entre élus de la majorité et ceux de l'opposition. Pour l'avenir, grâce à la sagesse d'Aubin Minaku, Matata Ponyo éclaire l'Assemblée nationale. Il a fait un exposé qui a mis tout le monde d'accord, surtout que sur d'autres cieux, cette communication du chef de gouvernement n'appelle pas des débats. La tempête de tropique, quant à elle, titre Matata Ponyo hué hier au Parlement. Pour les élus de l'opposition qui ont usé des cris et slogans pour exprimer leur colère, le Premier ministre de Joseph Kabila a fui le débat sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC.
Merci Kéline Kouté. Un petit commentaire Giscard Koussema. Je rappelle que vous êtes directeur général de la radio-télévision Canal Futur. L'actualité, c'est aussi cette déclaration du ministre des Médias qui vient de sursoir la clôture du dossier de la radio-télévision Canal Futur qui est votre média. Et pour Lambert Mende, le gouvernement congolais enquête sur l'implication présumée d'un des principaux partenaires de Canal Futur dans une entreprise de déstabilisation de la RDC.
Oui, je commence par cette dernière déclaration du ministre qui constitue, à notre avis, une énième diversion dans le traitement de ces dossiers qui a commencé il y a plus d'une année. Comment voulez-vous aujourd'hui associer les traitements de Canal Futur qui a commencé il y a une année aux derniers événements de déstabilisation du pays? Et le ministre, qui n'a pas dit, c'est qu'il se base sur des articles 78 et 85 de la loi sur la presse. J'ai avec moi les textes de cette loi, la loi des 96. Ces articles parlent du délit de presse. Et le délit de presse est défini par la même loi comme toute faute commise par un média ou par un journaliste.
C'est la loi Marcel Gavio.
Voilà. Et comment 96. Peut-on aujourd'hui imposer le délit de presse à un média qui n'aimait pas? C'est quand même aberrant de voir que dans ces pays, il y a de super doués, de surdoués qui peuvent faire passer la lumière pour le ténèbre ou vice-versa. Donc je voudrais dire par rapport à ces dossiers que d'abord le ministre n'a pas daigné citer nommément ses présumés partenaires de Canal Futur qu'il nous attribue dans la mesure où il a les noms, postes, noms et adresses complets de tous les partenaires de Canal Futur. J'insiste, les ministres a les noms, postes, noms et adresses de tous les partenaires de Canal Futur dans son bureau depuis plus d'une année. Et nous aimerions qu'ils puissent citer nommément, parce que là, ça met tout le monde en insécurité. On ne sait pas, c'est peut-être le directeur général qui est aussi un partenaire, peut-être c'est peut-être des journalistes ou quelqu'un d'autre. Donc nous pensons que aujourd'hui, ce qui vient d'arriver à Canal Futur, c'est une dérive totalitaire qui mérite de la part de la corporation une certaine solidarité.
Harold Bellarmé Badibanga, vous êtes secrétaire de rédaction à la RTGA, émettant depuis Kinshasa. Une année après sa fermeture, il y a ces nouvelles accusations qui sont formulées contre la radio-télévision Canal Futur. Est-ce qu'on peut, espérer que le signal pourrait un jour être rétabli?
Il n'est jamais interdit à quelqu'un, un être humain, d'espérer, en étant donné, dit que l'espoir fait vivre. Il faut tout simplement dire que devant les faits, on s'incline. Je l'ai toujours dit, les faits sont tels que lorsqu'une chaîne de télévision est fermée pendant une année, il y a des journalistes, des confrères à nous, qui sont devenus automatiquement chômeurs. Cela ne peut enchanter personne, étant donné que de ceux-là vivent toute une litanie de personnes. C'est tout à fait normal que cela arrive à nous mettre dans une peau pas bonne. Alors par rapport à ce que le ministre de la Communication et des Médias a tenu comme propos par rapport aux nouvelles allégations, aux nouvelles accusations qui font que le dossier pouvant faire que la chaîne de télévision Canal Futur arrive à fonctionner, on peut tout simplement dire que c'est vrai, lorsqu'il y a de nouvelles accusations qui s'ajoutent à un dossier, il y a des mesures préventives qui peuvent être prises. Alors si réellement ces nouvelles accusations sont de nature à ne pas permettre que la chaîne de télévision Canal Futur arrive à être rouverte dans un temps record, étant donné que la suspension dont elle est victime date déjà de plus d'une année, le simple vouloir, la simple volonté que nous on peut manifester ici, c'est de demander à l'autorité des tutelles, qui est le ministre Lambert Mende, de faire un peu diligence pour que ce dossier soit traité le plus vite possible, pour que une issue favorable puisse être donnée à nos confrères.
Merci Trésor Makunya Mouindo, correspondant des Sifia Grand Lac au Sud Kivu. Un mot par rapport à ces nouvelles accusations formulées à l'endroit de la radio-télévision Canal Futur.
Oui, comme tous mes confrères, je dois quand même me solidariser à tout ce qui est arrivé à Canal Futur il y a toute une année, et considérer aussi, comme Giscard, toutes ces nouvelles accusations comme étant une pure diversion. Canal Futur, c'est une société et qui a une personnalité juridique distincte de ses partenaires, de ses fondateurs. Donc Canal Futur ne peut pas être considéré comme étant Vital Kamerhe, Canal Futur ne peut pas être considéré comme étant Giscard Kouséma, mais Canal Futur a une toute autre personnalité juridique. Donc, le ministre, ce qu'il est en train de faire, il tape à côté du problème juridique, parce que les partenaires de Canal Futur n'ont rien à voir avec Canal Futur. De toutes les façons, il y a une année que Canal Futur est fermé, il y a aussi une année que l'information est fermée, parce que les radios sont les mêmes en République démocratique du Congo, mais ne se ressemblent pas, chacun ayant au fait une particularité de l'information. Donc, quand on ferme une radio, un média, un RDC, il faut savoir, comme le dit Z, comme le dit RSF, que c'est une information qui est emprisonnée. Mais je pense personnellement que c'est une décision tout à fait politique, parce que l'article 78, la loi du 22 juin 1976, fixant les modalités de la liberté de la presse en RDC, définit la trahison sur des éléments clairs, notamment l'incitation des forces combattantes à participer au service d'une puissance étrangère, démoralisation de l'armée de la population pour nuire à la défense nationale, mais Canal Futur ne se retrouve pas à ces niveaux.
Merci, nous abordons notre premier thème de ce soir. Les troupes du M23 ont débuté ce vendredi le retrait progressif des lignes de front autour de Sake, une trentaine de kilomètres à l'est de Goma. Constat de notre envoyé spécial sur place, Bernard Nyangi, qui répond aux questions de Babel Pongo.
Quels sont les signes de l'effectivité de ce début de retrait?
Et nous venons de constater autour de 11 heures locales un attroupement de militaires du M23 regroupés à Karuba, pour un retrait progressif. Karouba est à environ 20 km au nord-ouest de Sac et en territoire de Matissi. Portant armes en main, les autres avec sac à dos. Ces soldats marchent les uns à pied, d'autres à bord des véhicules pour un officier M23 retrouvé sur place. Ces soldats devraient dès ce soir se retrouver à Sake pour leur évacuation vers le nord de Goma. En croire le même officier, ces soldats regroupés à Karouba ont quitté les positions de Karouba, Nyenyeri, Kagano, Mouremoure et Moussekera sur le pont ouest de Goma. D'autres doivent venir de Mushaki à Sekingi Kiroliwe pour se regrouper tous à Sake, Babel.
Y a-t-il des indices palpables que les troupes du M23 vont se retirer totalement de Sake?
Jusque-là, rien ne peut nous amener à confirmer cela. Tout simplement, les officiers M23 croisés à Karouba affirment que cela prendrait probablement quelques jours, 2, 3 ou 4, pour que ce processus se termine, du fait, selon eux, que les soldats marchent à pied dans ce mouvement de retrait, ce qui les fatigue davantage. Et pendant ce temps à Sake, nous pouvons constater jusqu'à la mi-journée ce vendredi, quelques soldats M23 maintenir encore leur position sur les collines nord et sud de Sake, d'autres qui, dans la cité, sont encore au point de perception des tasses sur les véhicules. Jusque-là, la cérémonie officielle du retrait prévue à Sake n'a pas encore eu lieu, était initialement prévue. Donc, c'est un dossier à suivre.
Giscard Koussema, les M23 commencent à se retirer de la cité de Sake au nord Kivu. Votre analyse?
Oui, je disais tout à l'heure que j'aimerais attendre peut-être le dernier moment pour réaffirmer. Je reste sceptique, mais je ne suis pas pour autant pessimiste. Parce que je trouve que ces mouvements des troupes est un raccourci dangereux dans la recherche d'une solution définitive à la crise de l'Est du pays. Parce que ce retrait est la conséquence, en fait, de la dernière réunion du sommet de Kampala. Et ce sommet a abouti à 13 décisions. Mais il me semble qu'ici, on fait une lecture sélective de résolutions qui ont été prises au sommet de Kampala. Donc, pour bien comprendre et bien analyser ces dossiers, il faudrait d'abord lire intégralement les 12 décisions, parce que j'ai les textes ici, les 12 décisions qui ont été prises par les 3 chefs d'État qui ont participé à ces derniers sommets. Parmi ces décisions, je vais lire rapidement, on parle d'abord le gouvernement de la RDC devrait écouter les M23, évaluer et résoudre les violences légitimes de ces derniers en tenant compte du rapport de travail déjà accompli par les CIRGL. Et puis, on parle maintenant du M23 qui devrait cesser la guerre et cesser de menacer également de renverser le pays, arrêter toutes les activités de guerre, retirer ses troupes jusqu'à un rayon de 20 km. Alors, je disais qu'on devrait faire attention parce que si et seulement si les protagonistes ne s'exécutent pas par rapport à ces décisions, on risque de se retrouver finalement devant la balkanisation que tout le monde redoute, ou encore une situation de somalisation ou carrément des colombisations de la situation de l'Est du pays. C'est-à-dire, on reconnaît de fait qu'il y a un mouvement qui devrait rester là pendant tout le temps, d'autant plus que le sommet de Kampala n'a même pas donné un timing. On dit les troupes devraient être là à l'aéroport pendant combien de temps? Et qu'est-ce qui adviendrait si les protagonistes ne respectent pas ce qui se seront convenus?
Merci. Harold Belarmé Badibanga, comprenez-vous les doutes émis par Koussema qui pense que ces retraits du M23 est un raccourci dangereux dans la recherche de la solution par rapport à cette guerre qui sévit dans l'Est de la RDC?
Non, il n'y a pas de raccourci dangereux, bien au contraire, dans des situations spéciales et spécifiques comme celle-ci, les raccourcis sont souhaitables, étant donné que lorsqu'il s'est agi de la prise de la ville de Goma par ces troupes rebelles soutenues par le Rwanda, l'Ouganda et consorts, ça se fait de manière spontanée, on n'a pas tiré des choses en longueur. Alors pourquoi, pour leur retrait, on ne doit pas utiliser la même spontanéité? Moi je pense que lorsque on parle aujourd'hui et du retrait au regard de notre confrère qui est intervenu en direct de Massissi tout à l'heure, lorsqu'on parle pas du retrait total, mais du début déjà de ce mouvement-là, voilà. Il y a une lueur d'espoir, étant donné que nul ne s'y attendait. Je rappelle qu'ici, dans cette même émission la semaine passée, mon confrère Giscard Koussema ne pensait pas que sur base seulement du sommet de la CIRGL, on pouvait ne fût-ce que constater les mouvements que nous constatons aujourd'hui. Et lorsque nous parlons d'un succès diplomatique dans ce sens-là, je crois qu'aujourd'hui, on peut se bomber la torse pour dire on a finalement raison, parce que sans recourir de manière claire à un certain armement, on voit déjà ce qui arrive. Alors par rapport au doute, le doute est permis, encore que le doute que j'ai entendu tout à l'heure est méthodique, il est valable sur le plan scientifique. Ouais. Mais par rapport à ce doute, on dit tout simplement que ce qui enchante, c'est le début de ces mouvements. Au moment où l'on se sera rendu compte qu'il y a des intentions belliqueuses dans le chef des belligérants, dans le chef surtout de la rébellion, d'autres méthodes coercitives pourront être prises. Pour le moment, au regard des recommandations qui ont été faites à la CIRGL, on doit laisser faire les choses pour voir si réellement le M23 a la bonne volonté de respecter les engagements pris.
Harold Bellarmé Badibanga, il y a un des porte-parole du M23 qui a affirmé ce matin que le M23 vont rendre la cité de Sakié à des représentants de l'ONU et à des pays voisins de la RDC. Ce genre de propos ne renforce-t-il pas les doutes tels que émis par Giscard Koussema? Comment vous comprenez cette logique?
Ce doute-là, je l'ai appuyé pour dire que c'est un doute méthodique, scientifiquement valable. Et par rapport au fait que le rebelle, lorsqu'il arrive, il a toujours un agenda caché. Et lorsque vous lui demandez de rentrer, et quand on constate qu'il rentre, nous devons être convaincus qu'il le fait à son corps défendant. Alors par rapport à des propos tels que nous ne devons pas céder la ville de Sakié au FRDC, plutôt à la MONUSCO ou bien
au pays voisin de la RDC.
C'est venu d'où? On tire ça d'où? C'est de la masturbation intellectuelle. Lorsque on laisse la ville de Sakié aux forces armées à la MONUSCO, mais la MONUSCO fait toujours ses opérations de manière conjointe avec les FARDC. Donc, c'est une remise totale qui ne dit mot à la ville de Sakié au FARDC. Et dire qu'on remette à un pays voisin, au Rwanda, à l'Ouganda, les mêmes pays qui sont leurs mentors, on leur laisse la ville de Sakié, mais ça sera une façon de quitter dans la mer et de rentrer dans l'océan.
Voilà. Trésor Makunya Mwindo, comment vous commentez ces propos de ces porte-paroles du M23 qui dit que le M23 va rendre la ville, plutôt la cité de Sakié, aux représentants de l'ONU et aux pays voisins de la RDC?
Bon, ça, c'est tout ça n'est fait que confirmer à toutes les hypothèses que nous avons eues dès le début. Les rapports des Nations Unies ont pertinemment démontré que les M23, c'est un mouvement qui est appuyé par le Rwanda et l'Ouganda. Et donc, quand on dit force, par les pays voisins de la RDC, c'est donc ces deux pays-là. Mais moi, je suis tout à fait sceptique quant au retrait du M23 de la ville de Goma. J'ai analysé ces retraits à plusieurs points, notamment au niveau des déclarations du président de ces mouvements, M. Jean-Marie Roniguet. On entend toujours pourrait, le M23 pourrait quitter, le M23 devrait quitter, donc des conditionnels qui sont de plus en plus utilisés, et la plupart pour ces responsables, quand ils ne veulent pas citer la ville de Goma. Sur Radio France Internationale, Jean-Marie Roniga a dit par exemple, l'armée pourrait se retirer à condition que Kinshasa cesse de menacer la population de Goma et ses environs. Quelle sorte de menace, chers frères? Et donc, nous estimons, et moi je pense personnellement, que la volonté de quitter ou le retrait du M23 de la ville de Goma n'est pas pour aujourd'hui, malgré toutes ces tractations qui sont facilitées par la CIRGL. Ce sont ces mêmes bandits, non, l'ennemi, les FARDC ne doivent pas menacer la population, pendant que ce sont les FARDC qui gardaient, qui sécurisaient la ville de Goma avant l'avènement du M23. Retrait, oui, mais la sécurité de la population doit être assurée, selon Jean-Marie Roniga. Donc pour eux, sécuriserait mieux la population, les forces de l'ordre du M23, la police bien sûr.
Merci.
Quel retrait? Donner quelque chose à gauche et les récupérer à droite. Mais enfin, moi je pense que le M23 c'est un tout. Donc c'est l'ensemble de la police, de l'administration, de l'armée et tout. Et retirer l'armée, laisser la police, laisser l'administration bien 23 dans la ville de Goma, qu'est-ce qu'on aura fait? Tout cela, c'est du mascarade et donc c'est vraiment abracadabra.
Merci Trésor Makounia. Yuskar Kousema, Trésor Makounia vient d'exprimer un certain scepticisme par rapport au retrait de la ville de Goma, parce qu'il y a eu beaucoup de déclarations qui ont été faites à ce sujet. Il y a même le président du M23, Monsieur Runiga, qui a dit c'est les combattants qui se retirent de la ville de Goma, mais l'administration reste et la police reste. Il y a 100 combattants qui vont aller sécuriser le site de l'aéroport. Peut-on espérer que le M23 va se retirer effectivement de la ville de Goma?
Je me réjouis que mon confrère qui vit dans cette même zone puisse me rejoindre dans ce scepticisme qui est rationnel et qui est démontrable. J'ai dit tout à l'heure qu'à Kinshasa, ici, il y a des gens qui font une lecture sélective de la déclaration de Kampala. Je répète ici que la déclaration de Kampala contient 12 points. Par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, laissez-moi préciser que c'est le point 8 qui parle spécifiquement de ça, que le point 8 dit ceci. La MONUSCO devra occuper et assurer la sécurité dans la zone neutre se trouvant entre Goma et les zones nouvellement occupées par les M23. Et la zone nouvellement occupée ici, c'est Sake. Donc, il faudrait lire les 12 points de la déclaration de Kampala avant de faire une quelconque analyse. Parce qu'ici, Kinshasa se tient, disons, le gouvernement ici, ne parle que de la partie qui concerne le retrait du M23 et de l'administration de l'aéroport. Et on fait abstraction des autres points. Et c'est lorsque vous lisez intégralement ces communiqués que vous verrez que c'est une compromission très, très dangereuse, qu'on peut même qualifier d'une balkanisation signée par le gouvernement de la République.
Vous parlez de quel élément?
Comment voulez-vous? On a parlé tout à l'heure d'abord d'un succès diplomatique. Je démontre ici que si succès il y a, c'est le M23 et non pas le gouvernement. Parce qu'on a toujours soutenu ici, et je l'ai dit moi-même dans notre précédente édition, que le Rwanda et l'Ouganda ont une responsabilité dans ce qui arrive. Il revient au gouvernement de démontrer la thèse de l'agression. Le gouvernement a échoué et c'est ce même gouvernement qui a lavé blanc ces deux pays, pour qu'on ne parle plus du Rwanda et de l'Ouganda comme agresseurs, mais bien au contraire, le Rwanda et l'Ouganda deviennent des médiateurs. C'est plutôt le M23 qui a obtenu une légitimité nationale et internationale. Et qui vous dit que les choses vont se terminer toujours dans le sens du gouvernement? D'autant plus qu'on sent ici qu'il y a une certaine cacophonie communicationnelle. Vous avez suivi le ministre des médias qui a dit ici qu'il revenait au gouvernement, au président de la République, de juger légitime les revendications du M23. Qui connaît les revendications du M23 ne sont pas forcément celles du CNDP. C'est deux choses différentes. Les gens oublient que le cahier de charge du M23 n'est pas à déterminer par le gouvernement de Kinshasa. C'est au M23 de déterminer lui-même son cahier de charge.
Initialement, le M23 avait dit qu'il s'agissait, n'est-ce pas, de l'évaluation d'application des accords du 23 mars.
Vous avez bien dit initialement et continuez la suite.
Bon, avec le temps, c'est vrai que le volume des revendications a augmenté, mais initialement c'était ça.
C'est là où viendra les couacs, parce que on a dit ici, il y a toutes les revendications, qu'elles soient initiales ou celles qui par la suite étaient publiées par le M23, ont un certain lien. Et le plus important, ce serait une erreur pour Kinshasa de croire qu'on résout le problème de l'Est avec la réévaluation des accords du M23 et laisser tous les autres alors qu'il y a un lien, et on risque de s'enliser dans une situation qui serait beaucoup plus dangereuse.
Merci Harold de Bellarmé Badibanga. Vous pensez que le concept retrait s'adapte au contexte actuel? Notre ami Trésor Makounia a parlé des trois aspects. Il a parlé de l'armée, il a parlé de la police et de l'administration. Quand on parle retrait, on doit constater, n'est-ce pas, le départ de ces trois facteurs. Mais ici, le M23 dit nous nous retirons, mais l'administration reste, la police reste, et nous envoyons 100 combattants à l'aéroport pour aller sécuriser les sites de l'aéroport. Est-ce que les concepts retrait peuvent être adaptés au contexte actuel?
réellement adapté, totalement adapté, mais il faut maintenant adapter le réel à l'adaptabilité. C'est-à-dire, on ne peut pas, je l'ai dit tout à l'heure, le M23 se retire à son corps défendant, de là où il s'est installé. On ne peut pas lui demander de quitter Orbi sans laisser les tentacules. Et parce que le confrère a déclaré ici avoir vu déjà ces mouvements-là, le reste en termes de la police et de l'administration, ça va venir. Nous ne pouvons pas y aller de manière brusque, comme si d'ailleurs le M23 dont question c'était des enfants, ils étaient déjà en position de force quelque part, et il faut aussi y aller mollo pour ne pas brusquer chacun dans ce qu'il avait comme entreprise.
Et cette résolution des chefs d'État à Kampala qui demande à ce que l'aéroport soit sécurisé par une force composite constituée de la MONUSCO, des FARDC, du M23, vous pensez que dans la faisabilité, c'est rationnel cette résolution?
Dans la faisabilité, je ne crois pas savoir que c'est rationnel, mais je crois que c'est éphémère. Étant donné que ça, c'est d'ailleurs une preuve de l'implication totale et totalisante du Rwanda et de l'Ouganda dans cette affaire. Mais là où je me réjouis, journaliste congolais de mon état, c'est que déjà, c'est que le Rwanda ne voulait pas. C'est que l'Ouganda ne voulait pas. C'est que l'ennemi de la République ne voulait pas. Et donc, le retrait du M23 dans des zones acquises est déjà un commencement. Quand on parle du succès diplomatique, mon cher ami, on doit être clair. Est-ce qu'on peut me dire ici que lorsque le M23 est obligé de se retirer de la ville de Goma, c'est son succès diplomatique ou c'est le succès diplomatique de la République démocratique du Congo? J'ai toujours dit que devant les faits, on s'incline. Lorsque l'on parle du succès diplomatique dans ce sens-là, on doit voir ce qui avantage le M23, ce qui n'avantage pas le M23. Par rapport aux revendications, mais nous sommes clairs par rapport à ce sujet. Toute la litanie des revendications ajoutées par le M23, c'est du raccordement frauduleux. Du raccordement frauduleux lorsque l'on sait que évaluer les accords signés entre le gouvernement de la République et le CNDP, ce cahier des charges était bien connu. Lorsqu'on évolue, on amène des éléments et des revendications qui ne représentent rien par rapport à la vérité des urnes, alors que le CNDP n'a pas participé aux élections. C'est du raccordement frauduleux. Je crois que nous, on ne doit pas les appuyer dans cette démarche-là. Lorsqu'on demande, et j'ai fini par là, lorsqu'on dit c'est au gouvernement de la République de juger légitime les revendications du M23, cela ne veut pas dire que c'est le gouvernement qui doit établir ces revendications. C'est le M23 qui les établit, qui les ramène, et le gouvernement les juge de concert avec le M23 au regard de la constitution qui nous régit, qui dit que pour avoir le pouvoir, merci, il faut passer aux élections, il ne faut pas passer par les Kalachnikovs. C'est au merci regard de ça, c'est l'interprétation juridique est valable.
Merci. Trésor Makunya Mwindo, ces retraits étaient conditionnés par une série de préalables, notamment la neutralisation des groupes armés étrangers qui sévissent dans cette partie du pays. Vous qui évoluez là-bas, qui vivez là-bas, pensez-vous que c'est un préalable qui peut être accompli par le gouvernement congolais, neutraliser les groupes armés étrangers qui sévissent dans cette partie du pays?
Moi, je pense peut-être que c'est une question que nous devrions poser aux responsables actuels du M23. L'armée du M23, l'ex-CNDP à majorité, était aussi intégrée dans les FARDC. C'est ensemble qu'ils ont traqué ces forces et des groupes armés étrangers ici, chez nous. Donc je cite les FDLR, EIDF Nalu et les autres, les FNL. Donc les actuels dirigeants du M23, les militaires, je vois par exemple le lieutenant-colonel Zane Kazarama, le porte-parole, lui-même a déclaré à la RTNC Gouma qu'il a été porte-parole de l'armée nationale à Gouma. Il a été dans Amanimeo, il y a eu Amanimeo, Kinia 1, Kinia 2, Kinia je ne sais pas combien, qui ont été des opérations forgées par le gouvernement congolais pour traquer le RDLR, ou en sous-nous. Donc c'est un échec à imputer au M23, à imputer au CNDP, parce que eux au moins étaient là. Ils étaient regroupés dans des régiments pour traquer le RDLR, qui, jusqu'à maintenant, sont toujours sur le territoire national. Et donc je pense qu'à eux aussi, cet échec est à imputer. C'est merci pas seulement aux dirigeants actuels, c'est aux FARDC, parce qu'eux aussi, qui se disent mieux connaître l'armée nationale pour y avoir travaillé pendant très très longtemps, Et donc, je pense que c'est à eux de nous rendre les comptes des opérations à Manimeo qui ont été dernièrement suspendues par le président Kabila. Comme disait Harold Dubu, je pense que d'autres revendications du M23 sont purement forgées par eux pour se créer des sympathies à l'est comme à l'est du pays. Ça passerait à croire peut-être que le M23 se solidarise avec SNP Tshisekedi, avec la mort de Tshibeya, mais les autres, quand nous savons très bien que les grandes revendications, c'est le respect des accords du M23.
Merci Trésor, merci. Nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Assemblée nationale, la plénière de mercredi dernier, consacrée à l'exposé du Premier ministre Matata Ponyo sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, a été suspendue dans la confusion. Après plusieurs tentatives ratées, le Premier ministre était face aux députés mercredi dernier. Objectif, expliquer aux députés la situation dans l'Est, notamment dans le Nord Kivu. Tout en reconnaissant que la situation est très préoccupante dans cette partie du pays, Matata Ponyo a affirmé que les morales des militaires déployés sur place et au beau fixe. Signalons cependant que la plénière s'est terminée en queue de poisson raison. Certains députés issus de la majorité présidentielle ont refusé la tenue du débat, un débat plutôt jugé indispensable par leurs collègues de l'opposition. Face à la confusion qui s'y est installée, le président de l'Assemblée nationale a jugé bon de suspendre la séance plénière. Plus de précisions dans ces reportages de Mimi Ngumba Mulungu.
La plénière a commencé par un rappel sous forme de mise en garde du président de l'Assemblée nationale sur les principes à respecter lors du débat général. Visiblement, cela n'a pas plu à l'opposition. S'en est suivi alors l'exposé du Premier ministre. Juste après, Vicky Katumwa, députée de la majorité présidentielle, est intervenue avec une motion refusant tout débat autour de cette matière.
Ce que moi je ne veux pas, c'est qu'au lieu que ce soit un débat républicain, que cela tourne aux injures, à la dérision.
La motion n'enchante pas certains élus de l'opposition. La tension est perceptible dans l'hémicycle car pour l'opposition, le débat est plus qu'important pour le peuple. Grégoire Kiro.
La situation est grave à l'est du pays et quand les députés veulent avoir un débat sur cette question, il y a nos amis de la majorité qui font une motion pour demander qu'il n'y ait pas de débat. C'est inadmissible. Le peuple doit savoir ce qui se passe.
Pour calmer les esprits, Aubin Minaku décide de suspendre la séance pendant quelques minutes. Après la reprise de celle-ci, le président de l'Assemblée libère les membres du gouvernement. L'opposition qui s'en plaint trouve que Matata Ponyo a réussi son coup en évitant le débat. Aubin Minaku revient à la charge pour cette fois suspendre la séance. Elle répondra un autre jour.
Merci Mimi Ngumba Mulongo. Harold Bellarmé Badibanga, je commence par vous. Je rappelle que vous êtes secrétaire de rédaction à la RTGA émettant depuis Kinshasa et que vous êtes permanent à l'Assemblée nationale. Certainement que vous étiez là ce mercredi. Et comment on peut expliquer cette situation?
Non, j'ai toujours dit que les affaires de l'État se traitent avec l'âme d'État et non avec les états d'âme. C'est à quoi j'ai assisté ne pouvait que ne pas me plaire. Mais au-delà de ça, lorsque nous abordons la question avec froideur, mon cher ami, il faut que l'on soit clair. Le Premier ministre est venu à l'Assemblée nationale pour être entendu sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. C'est mon point de vue. Mon point de vue, c'est que j'aurais aimé de deux choses l'une. Soit que le débat se fasse mais à huis clos, ou la manière dont les choses sont arrivées, qui ne s'effacent pas ouvertement. Pour quelle raison? Pendant que le débat se fait à la télé, il est suivi même par les ennemis de la République. Des questions, je donne ma main à couper, on ne la coupera pas. Des questions seraient tombées jusqu'à demander quelle stratégie le gouvernement a-t-il prise pour bouter hors le territoire national les agresseurs. Et tout ça, ça devait se dire du haut de la tribune, une plénière télévisée. Est-ce que ça profiterait au pays? Je ne crois pas. Moi, j'aurais aimé que si les députés nationaux de l'opposition avaient voulu que le débat se passe en toute clarté comme ils l'ont voulu, qu'ils aient a priori la volonté de demander que le débat se fasse à huis clos. Ça protégerait et la République, et le Premier ministre, et le peuple, étant donné que les secrets de la guerre ne se sortent pas, ne se divulguent pas, avant ça aurait été une manière de permettre à l'ennemi de marcher à contre-courant des stratégies prises contre lui.
Oui, on sait que le huis clos a toujours été une option depuis un certain moment, depuis que la guerre de l'Est a commencé, a repris. Mais il n'y a pas eu d'impact sur le terrain, en dépit du fait que les débats se font à huis clos. il n'y a pas eu d'impact. Pourquoi continuer avec cette approche-là quand elle ne produit pas des fruits?
Non, mon cher ami.
Parce que les secrets à laquelle vous faites allusion, qui devraient être sauvegardés, mais ces secrets-là sont à la minute même connus par ceux qui sont fous.
Mais c'est pas parce que nous n'avons pas enregistré de succès considérable, encore que c'est quand même trop de dire qu'il n'y a jamais eu de succès. Mais c'est pas parce que nous n'avons pas enregistré des succès assez convenables comme pays que l'on doit se décider un jour de livrer tout le secret à l'ennemi. Je pense tout simplement que ce qui s'est passé, ce caricaturage entre les députés nationaux de l'opposition et ceux de la majorité n'étant pas bon, mais le fond, il est valable. On ne peut pas parler de secret d'État devant les caméras pour permettre à ceux qui nous agressent de marcher à rebrousse-poil.
Merci. Giscard Kousséma, je rappelle que vous êtes directeur général de la radio-télévision Canal Futur. Les secrets d'État doivent être sauvegardés, comme le dit Harold Bellarmé Badibanga. Et à cet effet, il faut plutôt organiser des débats à huis clos.
Oui, je voudrais d'abord fixer les esprits ici. Lorsqu'on considère qu'il y a des secrets d'État à débattre, il y a des mécanismes prévus dans les règlements intérieurs, c'est de déclarer un huis clos. Ici, le problème n'est pas de divulguer les secrets d'État. Il y a une volonté manifeste de la part du président de l'Assemblée de ne même pas ouvrir le débat. Et c'est ça qui pose problème. Et on veut
c'est pas un procès d'intention à l'endroit du président de l'Assemblée nationale.
Je l'ai dit, j'ai 5 ans d'expérience à l'Assemblée nationale, je sais de quoi je parle, il y a des us et coutumes. Lorsque quelqu'un vient faire l'exposé, il y a des questions et des réponses, il ne vient pas donner une parole d'évangile et ça s'arrête là. Sinon, c'est une lettre qu'il pouvait envoyer. Et donc, on s'attendait à un débat. Ces débats-là pouvaient être à huis clos si on estime qu'il y a des questions sensibles. Sinon, c'est de donner l'impression que ce qu'il a dit alors n'a rien à voir et que de vraies questions, il ne les a pas évoquées. Ok, je voudrais dire ici que cette attitude, ce qui s'est passé hier, risque de créer un précédent fâcheux. Vous savez, l'opinion constate qu'avec l'actuel bureau, il y a une volonté manifeste de pouvoir toujours sauvegarder le Premier ministre et de ne jamais le laisser passer à l'Assemblée nationale pour un débat. On a vu, beaucoup d'initiatives ont été étouffées dans l'œuf. Et puis, dire que ce sont les députés de l'opposition, c'est faux. Henri Thomas Lokondo, qui était le premier à aller combattre une motion venant de la majorité, n'est pas de l'opposition, c'est que je sache. Il y a une déformation volontaire des faits. Et ça, nous devons de recadrer les choses. Il ne s'est pas agi ici d'une affaire opposition-majorité. Non, il y a eu dans la salle une dynamique qui a fait qu'au niveau de deux groupements politiques qui avaient une volonté de faire le débat. Et lorsque le président l'a constaté, il a même étouffé que la motion passe au vote parce que ça aurait été un désaveu public, ça aurait été une division de la majorité qui était déjà visible, j'insiste. Henri Thomas Lokondo qui est passé premier pour combattre cette motion et de la majorité. Donc il faut recadrer les choses.
Merci.
Donc nous disons qu'il y a un précédent fâcheux avec ces bureaux et ce qui s'est passé hier aura des effets sur l'actuel bureau, vous le verrez.
Merci. Trésor Makounia Mouindo, je rappelle que vous êtes correspondant des Sifia Grand Lac au sud Kivu. Les députés de la majorité présidentielle estiment qu'à partir du moment où le Premier ministre a fait son exposé, il n'était plus nécessaire de les retenir à l'Assemblée nationale et que si débat il y a, les débats devaient se passer entre députés, et quitte à eux, à l'issue de ces débats, de formuler un certain nombre de recommandations à imposer au gouvernement.
Moi, je pense que c'est vraiment époustouflant que les députés de la majorité présidentielle que nous avons disent cela. Parce que eux, au moins, peut-être qu'ils ont compris, peut-être qu'ils comprennent la situation déjà, avec les réunions qu'ils font avec les chefs de l'État, peut-être qu'ils comprennent, mais le débat permettrait justement d'éclairer la lanterne et des députés indécis à voir quelle est la décision qu'il faut adopter. À ce niveau, quelle est la marche à suivre et qu'est-ce qu'il faut faire dans le cas précis? Moi, je pense peut-être que c'est toujours le bureau de l'Assemblée nationale, c'est le prolongement de la majorité présidentielle, c'est une place et résonance de la majorité présidentielle. Rappelez-vous que le président de la République a invité six groupes parlementaires de la majorité pour leur parler de la situation à l'Est. Leur a-t-il interdit de s'acharner sur les membres du gouvernement sur cette question? En tout cas, un frère reste un frère malgré ses dirigeants. Peut-être ce qu'ils ont dit. Mais moi, personnellement, je trouve que ce débat, c'est vrai à quel niveau? Au niveau des faits. les faits. Si le ministre expose et que nous disons, nous avons entendu, monsieur le ministre, tu peux partir, et nous disons par exemple, Anna, c'est comme la parole de l'évangile, ça ne va pas. Ça ne va pas. Au-delà des règles qui existent, des lois, des procédures, on fait ceci, on fait ceci, moi je pense que la question de l'est, de la situation sécuritaire, de l'est de la République démocratique du Congo ne préoccupe vraiment pas à grande échelle les députés de la majorité présidentielle. Moi, ça c'est mon point de vue et j'en assume. Parce que toujours, quand on veut en parler, c'est celui qui tire ses côtés pour mettre de côté, par exemple, un membre du gouvernement, refuser que tel ne vienne se justifier devant les élus du peuple, devant les représentants légaux de la population, qu'on relève sur toute l'étendue du territoire, il faut venir aller voir ceux qui souffrent. Des milliers de femmes violées, des enfants, des hommes tués sans pitié ni piété ici au sud Kivu, au nord Kivu et dans quelques coins du pays. Moi, je pense que à ce niveau, on devrait prendre nos responsabilités à main, voir quelle est la solution afin.
Merci Harold de Bellarmé Badibanga, Trésor l'a dit. Il faut peut-être amener tous ces députés, les mettre dans un avion et les amener à l'Est pour qu'ils palpent du doigt les réalités que vivent les populations de là. Et peut-être que cela pourrait leur aider à changer de perception par rapport à la gestion de cette question. Pensez-vous, comme l'a dit Giscard Koussema, qu'il y aurait volonté de la part du président de l'Assemblée nationale de vouloir à tout prix protéger le Premier ministre?
Loin de là, je commence par Trésor qui ne nous donne pas l'impression que les députés nationaux, tant de la majorité que de l'opposition, ne savent pas ce qui se passe à l'Est, étant donné que les nouvelles technologies de l'information et de la communication leur permettent, n'est-ce pas, de se rendre compte de ce qu'il y a sur terrain. C'est d'ailleurs fort de la connaissance adéquate de tout ce qui se passe sur terrain que les débats sont alimentés à l'Assemblée nationale. Ça, on doit se le dire. Par rapport au point de vue de Giscard, selon lequel le président l'Assemblée nationale ne serait là que pour étouffer dans l'œuf les débats autour du Premier ministre par rapport à ce qui se passe à l'Est ou dans d'autres débats. Je ne suis pas de ce point de vue, étant donné que Giscard, qui a aussi une expérience à l'Assemblée nationale, il l'a dit, n'arrive pas à dire haut et fort qu'il n'y a pas que la République démocratique du Congo qui fait applicabilité des jeux démocratiques. Dans le jeu démocratique, tel que la représentation nationale le démontre, la majorité, lorsqu'elle a un mot à dire, elle le fait passer compte tenu de sa majorité numérique.
Donc c'est pas le propre de la RDC.
C'est pas le propre de la RDC, étant donné que dans toutes les démocraties, la France, la Belgique, lorsque vous êtes majoritaire dans une chambre, il y a toujours une prépondérance qui se fait là-bas. Je crois que tout ce qui s'est passé jusque-là, c'est l'expression de la démocratie. Giscard ne saura pas donner ici un seul article du règlement de l'Assemblée nationale ou de la Constitution qui a été violé par le président de l'Assemblée nationale.
Giscard Koussema, parce que vous estimez que le débat était nécessaire, et s'il y avait eu débat ces jours-là, qu'est-ce qui se serait passé à votre avis? Vous avez parlé des fissures au sein de la majorité qui commençaient à se manifester. Qu'est-ce qui se serait passé?
Mais on attendait de ces débats des résolutions, des recommandations que le Parlement ou l'Assemblée nationale peut faire à l'endroit du gouvernement. Donc ce sont des recommandations, il ne faut pas escamoter le débat. Ça montre qu'il y a une gestion légère de la crise dans le pays et nous disons que tout ça fait partie des raccourcis. Il y a des problèmes sérieux qui demandent que toute la classe politique congolaise, majorité comme opposition, se mette autour d'une table pour sereinement parler de questions qui rongent le pays, mais si c'est de manière sectorielle, croire que le problème c'est le M23, le reste c'est des faits divers comme on les a qualifiés, nous risquons de nous retrouver à la case de départ et peut-être même assister à une colombisation de la crise congolaise.
Merci, c'est la fin de cette émission. Héritier Sidiakala était à la technique et Kelin Kouté à la réalisation sous la supervision de Ben Kabamba. Devant ses micros, Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Okapi.